Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Au moment où la Chine organisait un défilé très important, un défilé militaire impressionnant dans le centre de Pékin, auquel avaient participé 100 000 militaires et civils, 15 000 militaires chinois y avaient participé, 160 avions et hélicoptères ainsi que 580 systèmes d'armement y ont été exhibés. 40% de ces armements et de ces équipements n'avaient jamais été vus publiquement et Chine vient vraiment de faire une démonstration de force impressionnante dans le centre de Pékin. C'était juste à ce moment qu'il y a eu l'annonce du renforcement de la coopération militaire entre la Chine et l'Iran. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a en fait fait état de cette volonté de la part de la Chine et de l'Iran de vouloir renforcer leur coopération militaire. Le général Bagheri qui dit que voilà, la Chine va participer à un exercice conjoint avec l'Iran au mois de décembre dans les eaux internationales de l'océan Indien, également dans la mer d'Oman. C'est dans un tel contexte que l'Iran et la Chine en fait ont décidé de renforcer leur coopération militaire. C'est un fait très très important, c'est un événement sans précédent. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission au téléphone un spécialiste français des questions internationales. Il s'agit de M. Pierre Dortiguet. M. Dortiguet, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Rothstein, bonjour à tous nos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Monsieur Dortiguet, permettez-moi de faire cette précision qui est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Et j'ai avec moi pour cette émission depuis Paris un juriste français spécialisé des questions internationales par Skype. Il s'agit de Maître Eliatem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à M. Dortiguet, à tous les téléspectateurs, et merci de m'avoir invité.
Maître Atem, si vous nous le permettez, on va commencer avec M. Dortiguet, notre émission d'aujourd'hui. M. Dortiguet, vous connaissez très bien, en fait, des questions relatives à l'Iran, à la région, et également à ces coopérations bilatérales entre l'Iran et la Chine. Quelle est, d'après vous, la portée, l'importance de cette décision prise par Pékin et Téhéran pour renforcer leur coopération militaire, d'autant plus que la Chine va envoyer ses navires, c'est pour la première fois, pour participer à un exercice conjoint militaire avec l'Iran, également avec la Russie, dans les eaux internationales de l'océan Indien et de la mer d'Oman.
Oui, en effet, c'est là, bien sûr, la nouveauté de cette alliance, cet accord que nous connaissions entre l'Iran et la Chine, bien sûr, et aussi la Russie. Cette initiative que l'on peut dire chinoise, c'est-à-dire que les premiers, si je ne me trompe, lançaient l'invitation à une délégation militaire iranienne de se rendre il y a cela plusieurs semaines en Chine, et aujourd'hui, cette proposition qui n'est pas une sollicitation iranienne, mais à notre avis qui est une proposition chinoise, d'exercice commun montre qu'il y a quelque chose d'irréversible qui est accompli, à savoir que l'Iran n'est pas seul face aux menaces, disons, à cette coalition, peut-on dire, qui se forme contre lui, qui n'est pas une coalition très nette, mais dont, en tout cas, les responsables, c'est-à-dire ceux qui, à l'intérieur des États-Unis ou à l'intérieur de l'Europe, jettent de l'huile sur le feu, c'est-à-dire prennent prétexte d'un incident ou d'un épisode, par exemple de la lutte entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, sa coalition qui a envahi le pays, pour pouvoir, mettre en cause, l'agressivité de l'Iran. Et autre chose, je crois que ces bruits de guerre, qui sont très dangereux, bien sûr, ne peuvent que baisser d'intensité devant la démonstration justement d'une alliance alliance non pas politique seulement, mais alliance de fait, alliance, disons, géopolitique pour être plus précis, alors si l'on veut, entre la Chine et l'Iran. Il s'agit là de deux grands pays asiatiques et qui, bien sûr, sont menacés par des puissances bien extérieures à eux, voyez, comme l'avait indiqué le président Rouhani aux Nations Unies, et que, disons, tout établissement de la sécurité dans cette zone ne peut être fait qu'avec l'assentiment, bien sûr, des riverains, et il est certain que la Chine latente n'est pas un pays étranger. C'est un pays, au contraire, sur lequel doivent compter les gens de la région. C'est la géographie qui l'indique. Et bien sûr, on ne peut pas opposer, ou disons séparer, là je conclurai là-dessus, les menaces contre l'Iran aux agitations, disons, qui sont faites envers la Chine, à l'intention de la Chine. Je crois que ce n'est pas une préparation à la guerre, pour dire les choses fortes, mais c'est une réponse au bruit de guerre. Mmh. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que cette alliance a quelque chose de rassurant.
Merci beaucoup, M. Dortiguet. Permettez-moi d'avoir, en fait, de la vie de Maître Elie Hatem sur le point que venait en fait de soulever. Maître Hatem, selon M. Dortiguet, la Chine également est inquiète de ces menaces, si vous voulez, extérieures. Vous en souvenez, il y a en fait quelques années, le président chinois faisait part de la volonté de son pays de vouloir mettre en place un dispositif de sécurité avec d'autres pays, l'Iran et la Chine, pour faire face aux menaces extérieures. Maintenant, M. Dortiguet vient de le dire que voilà, l'Iran et la Chine vont vers une alliance géopolitique pour faire face à des menaces extérieures. Votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, il faut dire une chose, c'est qu'il y a eu une stratégie américaine qui est un projet politique qui était celui de la déstabilisation des États en utilisant, en manipulant, en instrumentalisant les facteurs religieux. Et puis en même temps, depuis plus d'une trentaine d'années, les think tanks américains ont été en train de travailler pour la déstabilisation de la Chine. C'est leur deuxième priorité. Et nous entrons aujourd'hui dans cette ère de déstabilisation de la Chine, qui est une puissance qui aujourd'hui constitue le principal adversaire et voire ennemi aux États-Unis. Alors, cette guerre, nous la voyons avec plusieurs façons. Donc, d'une part, avec les Ouïghours, les Américains ont tenté, ou tentent toujours d'ailleurs, d'utiliser cette arme qui est celle des facteurs de l'instrumentalisation des facteurs religieux, mais également avec une guerre économique. Nous les avons vu cela avec Huawei, avec les sanctions contre la Chine. Nous avons vu également, par pure coïncidence, ces manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong, et nous savons, tout le monde le sait très bien, la présence américaine à Hong Kong est très importante. Cette manipulation également à Hong Kong pour montrer en même temps où la Chine célébrait ce 70e anniversaire avec ce retour sur la scène, cette apparition sur la scène politique internationale, ça montre que effectivement aujourd'hui il y a un conflit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, elle a été très discrète au cours ces deux dernières décennies, elle n'a pas voulu faire preuve de sa puissance politique et militaire sur la scène internationale. Quand on sait très bien que la puissance, il y a plusieurs facteurs pour faire acte, pour présenter et pour démontrer la puissance. Alors, la Chine a été très discrète. Nous avons vu en Afrique, au Moyen-Orient, la manière dont elle s'impose ou s'est imposée d'une manière économique. Et il était très difficile de pousser la Chine, en fait, à entrer, je dirais, sur la scène politique et pour redevenir ou pour montrer, en fait, sa puissance politique. La Russie a eu du mal à pouvoir, donc, impliquer la Chine auprès d'elle, et nous le savons depuis quelque temps, comme je le disais toujours, progressivement, la Russie est aujourd'hui à la tête du nouveau monde libre, ce monde libre-là qui est celui de la préservation de la stabilité des entités étatiques, de l'indépendance et de la souveraineté des États. Elle a su ranger de son côté la Chine, et tout le monde le sait, aujourd'hui la Russie est également l'un des soutiens de l'Iran dans cette crise que traverse l'Iran, dans cette guerre qui est menée contre l'Iran, qui, comme nous le savons, était l'une des puissances qui a permis l'arrêt de cette guerre qui a été fondée sur l'instrumentalisation des facteurs religieux, notamment avec Daesh, qui est, comme tout le monde le sait, une création des services secrets américains et israéliens dans la région pour créer ce chaos. Cet échec-là a conduit les Israéliens et leurs alliés, c'est-à-dire les États-Unis, parce que nous savons que c'est le fameux lobby de l'AIPAC qui agit beaucoup sur la politique étrangère américaine. Aujourd'hui, la Chine se réveille de plus en plus et, je dirais, a besoin de s'affirmer sur la scène politique internationale. Dans cette guerre qui est menée contre l'Iran, qui a rejoint le nouveau monde libre, elle s'est affichée comme étant l'un des soutiens donc, de l'Iran. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, d'une part, cette stratégie ou cette volonté ou cette réponse à ces exercices navals qui vont avoir lieu en décembre prochain, d'ailleurs, dans l'océan de l'océan Indien, bien sûr, dans les zones internationales de l'océan, et puis également dans la mer d'Oman. Ceci dit, cela coïncide avec cette démonstration militaire, parce que vous savez, la symbolique en politique internationale est assez importante. Cet événement, qui est celui de cet anniversaire, en fait, de la Chine, ce jour national, et puis cette mise en scène assez importante, ça démontre que la Chine revient d'une manière assez forte sur la scène internationale. Elle s'affirme comme l'allié de la Russie, comme soutien en fait de l'Iran, qui est victime aujourd'hui d'exactions de l'axe du mal, qui est aujourd'hui téléguidé par les États-Unis et qui veut l'affaiblissement donc des États, la prééminence des États-Unis et l'instabilité dans tout le monde, c'est-à-dire autrement dit la politique du chaos.
Monsieur Tortigueille, en fait, revenons encore à cet exercice militaire naval conjoint entre l'Iran, la Russie et la Chine, qui est prévu en fait pour le mois de décembre, au moment où Maître Eliatem est en train en fait de faire son commentaire, des images en fait d'un avant-goût d'une partie des équipements militaires iraniens dans la région du Golfe Persique et surtout ont été publiées. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Borrelli, a dit que voilà, c'est l'Iran qui joue en fait le rôle majeur pour assurer la sécurité de cette région. Alors, selon toujours le général Borrelli, la Chine va envoyer, je viens de le dire tout à l'heure encore, ses navires dans la région, si vous voulez, dans l'océan Indien, dans la mer d'Oman, pour participer à cet exercice conjoint naval avec l'Iran. C'est en effet, M. Dortiguet, un fait sans précédent.
Oui, en effet, c'est sans précédent. Mais tenez, on peut s'interroger, et Maître Ertel a donné, disons, un échantillon. Mais tenez, sur la raison même de l'agressivité aujourd'hui contre l'Iran. Celle-ci, à notre avis, s'est accrue après la défaite sur le terrain, bien sûr, en Syrie, et des groupements terroristes qui avaient été formés, bon, bien sûr, à l'instigation de certains milieux aux États-Unis, en Angleterre même, c'est ce que Edward Snowden appelait l'opération dite de Frelon, vous voyez. Bien, tout ceci, cette défaite, en réalité, au lieu de calmer les comploteurs internationaux, si je puis dire, disons, fait monter d'un degré dans les accusations portées contre l'Iran d'être un facteur d'instabilité, un facteur d'agression, etc. Et la Chine elle-même a senti que les rivalités qu'il pouvait y avoir entre elle et les États-Unis ont également, à cette occasion, certainement monté d'un degré. Et donc, il faut que la Chine montre, comme l'Iran, que, disons, elles sont prêtes à faire face à cette augmentation d'agressivité venant justement de l'échec sur le terrain des organisations qui étaient évidemment chargées d'installer un désordre permanent qui aurait évidemment empêché tout développement pacifique de la région, etc., disons, aurait justifié les présences étrangères et bien sûr aussi favorisé les desseins d'Israël. Tout ceci, je crois, montre que la situation en réalité est devenue, je ne dis pas plus sérieuse, car elle a toujours été, mais beaucoup plus grave en réalité qu'on ne le croit. C'est-à-dire que les défaites des comploteurs ont en réalité, disons, augmenté leur ambition. Est-ce qu'on peut mettre en cause le gouvernement actuel des États-Unis? Celui-ci, le président, vous savez, est occupé par les élections. En réalité, nous ne savons pas quel sera le résultat, mais il est certain que à proposer ces exercices communs, c'est qu'elle-même sent qu'il y a justement une augmentation de l'agressivité de façon générale contre cette région de l'Asie. Et je pense que ce qui nous a frappé, ce n'est pas, je pense que c'est précisément cette initiative chinoise qui doit faire réfléchir justement ceux qui passent leur temps, disons, à attaquer l'Iran et autres, voyez-vous. Et il faut qu'ils comprennent que l'Asie, cette partie de l'Asie, sent qu'elle est menacée, justement, et donc qu'elle veut se défendre. Et que de ce point de vue, disons, les intérêts sont communs. Car la situation est commune, et bien sûr, l'adversaire commun est désigné, bien sûr, on le sait, sont ces milieux aux États-Unis, même à faire parler de l'AIPAC, etc. Bien sûr, ce sont ces milieux qui ont, comme on appelle ça vaguement, les milieux occidentaux, voyez-vous, qui sont des fauteurs de guerre. Et je crois que s'ils ne se sont pas arrêtés devant leur défaite sur le terrain en Syrie, là, ils seront obligés, bien sûr, de marquer le pas devant, justement, non pas cette coalition, mais cet affermissement, disons, de grands pays asiatiques. Et je crois d'ailleurs que l'ensemble de l'Asie suivra, évidemment, pas seulement la Russie, mais l'ensemble de l'Asie suivra justement cette démarche.
Maître Atem, les Chinois, en fait, ont renforcé ces derniers temps leur présence militaire en Afrique, et maintenant ils se montrent désireux pour avoir en fait une présence militaire dans la région du Moyen-Orient. Alors, peut-on dire que les Chinois se sont rendus compte que pour assurer la sécurité au domicile, ils devront avoir en fait une présence militaire en dehors de leurs frontières?
Absolument. Il faut aussi savoir une chose, c'est que depuis aussi une dizaine d'années, les Chinois ont commencé à réfléchir, donc c'est un peu, vous savez, cette contagion de think tank, etc., qui a conduit, en fait, les affaires étrangères à penser, à réfléchir sur cette fameuse route de la soie. Et le renforcement de cette route de la soie et cette stratégie, je dirais, militaire et politique étrangère est fondée sur ce retour, si vous voulez, de cette route de la soie qui passe également dans toute cette région, y compris l'Iran, y compris d'ailleurs la Syrie. Et d'ailleurs, pour vous illustrer cela, c'est qu'il y a l'ambassade chinoise à Damas. Autour donc de la muraille de l'ambassade, il y a tout un dessin qui représente cette route de la soie qui fonde cette stratégie, je dirais, diplomatique et politique de la Chine de pouvoir de nouveau s'affirmer, non pas simplement d'un point de vue économique, comme la Chine le fait en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'il faut dire que quand même, aujourd'hui, les produits chinois commencent à sérieusement à concurrencer les produits occidentaux, les produits européens et les produits, bien sûr, américains. Mais parallèlement, la Chine maintenant a, je dirais, le devoir de s'affirmer d'un point de vue politique et militaire. C'est ce qui explique en fait cette volonté chez les Chinois de pouvoir renforcer leur présence militaire à l'extérieur même de leurs frontières pour faire preuve quand même qu'ils sont, au même titre d'ailleurs que les Russes ou bien que les Américains présents sur ces différents territoires, en particulier sur les territoires qui font partie du continent asiatique. La Russie, avec la Chine et les pays qui vont se joindre à eux, sont là pour démontrer que quand même il y a aujourd'hui une alliance. Et puis, comme vous le savez, c'est l'union qui fait la force face, en fait, à l'autre axe, c'est-à-dire l'axe de l'ancien monde libre, qui est présidé par les États-Unis ou dirigé par les États-Unis, qui se sont érigés le gendarme du monde. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une faiblesse et ce fameux empire-là est en train, en fait, de régresser grâce d'ailleurs à cette union de ces nouvelles forces, ce nouveau monde libre qui draine derrière lui tous ces pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la position de la France et de la politique étrangère française, qui était totalement, à un moment donné, inféodée aux États-Unis et à l'OTAN, puis surtout depuis que la France a réintégré le dispositif militaire de l'OTAN. Aujourd'hui, la nouvelle position du président Macron est celle de se mettre d'une manière équidistante entre l'axe du mal qui est dirigé par les États-Unis et l'axe du bien, c'est-à-dire celui de la Russie, de la Chine, de l'Iran, qui fait partie de cet axe du bien, parce qu'on voit cette alliance entre la Chine, l'Iran et la Russie.
Monsieur de Dortiguer, une dernière question. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les Chinois sont arrivés en fait à cette conclusion, que c'est l'union qui fait la force, d'où en fait cette volonté chez les Chinois de vouloir en fait se rapprocher davantage, pas de l'Iran et de la Russie, parce qu'il y a eu toujours ce rapprochement, mais en fait d'adhérer plutôt à cette idée, à l'iranienne et à la russe?
Oui, en effet. Les Chinois, ont fait l'expérience de la division à l'intérieur même de ce qu'on appelait autrefois le camp socialiste, où il y avait une division entre la Russie et la Chine. Ils ont vu qu'elles étaient néfastes aux deux nations. Et ils voient aussi, comme le souligne votre invité, que les États-Unis et ses puissances occidentales, derrière les États-Unis, comme gendarmes du monde, veulent être présents partout. C'est-à-dire, sont prêts à entraver dans l'avenir tout succès économique de la Russie et de la Chine. C'est une guerre, disons, déclarée, une guerre ouverte. Et donc, devant cette hostilité potentielle, disons, ils développent une résistance, une défense, qui, naturellement, est en dehors de leur territoire. Car ils savent que ce qui se passe à l'Orient, par exemple, maintenant, comme ce qui se passe, comme la Russie le sait pour ce qui se passe à l'Ukraine et autres, ce sont des exercices de déstabilisation qui visent en réalité ces grandes puissances.
Merci beaucoup.
C'est une guerre déclarée, et une guerre déclarée ouverte. À une guerre déclarée, il faut une défense déclarée. C'est ce qui s'est passé.
Monsieur Pierre Dortiguer, philosophe français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi au téléphone pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Maître Eliatem d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.